Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Pierre Joliot, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour.
Bonjour.
Votre présence dans ce studio, ce dimanche matin de la fin du mois de mai, tombe bien pour toute une série de raisons que je vais déployer. Mais tout d'abord, pour nos auditeurs, je rappelle que vous êtes chercheur, biologiste, que vous avez occupé la chaire de bioénergétique cellulaire au Collège de France, que vous avez reçu le prix du Commissariat à l'énergie atomique en 1980, la médaille d'or du CNRS en 1992, que vous avez publié chez Odile Jacob en 2001 un ouvrage qui est un plaidoyer très clair pour la recherche fondamentale. Vous avez été aussi un temps conseiller scientifique auprès du Premier ministre Laurent Fabius en 85-86. Donc vous êtes à la fois un grand chercheur et une conscience engagée dans le siècle. Alors je voudrais évoquer avec vous les nouvelles perspectives que l'alternance politique offre à la recherche. Et alors que nous avons à cette antenne et durant le dernier quinquennat dénoncé les atteintes portées par les gouvernements Fillon à la recherche, je voudrais aujourd'hui, et c'est ainsi que j'ai intitulé cette émission, évoquer nos espérances et donc parler des espérances de la recherche. Alors, première question qui tient à votre histoire personnelle, Pierre Joliot. Votre histoire de chercheur, de fils de chercheur et de petit-fils de chercheur. Vous avez été invité par François Hollande avec votre sœur Hélène Langevin qui préside l'Union rationaliste. Vous avez été donc invité le 15 mai 2012 à déposer une gerbe à l'Institut Curie en hommage à Marie Curie. Ce geste fort, au matin même de son investiture, revêt quel sens ?
Eh bien, je dois dire que ça a d'abord été une grande surprise et une grande joie, car c'est un jour, évidemment, qui est important dans l'histoire du pays, l'investiture d'un nouveau président. Et qu'il choisisse d'honorer Marie Curie à cette occasion a une signification pour moi très profonde. Bien sûr, et je répète en quelque sorte ce qu'a dit le président lui-même, Marie Curie représente plusieurs symboles absolument extraordinaires en tant que femme, première femme scientifique à recevoir le prix Nobel, premier professeur à l'Université de Paris. C'est, comme vous le savez, elle est d'origine polonaise. C'est donc, dans la terminologie actuelle, une émigrée. Choisir de devenir française a été pour elle une décision très difficile, très importante. Elle l'a totalement assumée, tout en restant extraordinairement attachée à son pays d'origine. C'est donc un exemple d'intégration absolument magnifique. Enfin, je pense que le président de la République a voulu montrer, à travers cette cérémonie, l'importance qu'il attribuait à la recherche. Et je crois que par rapport à ce que nous avons vécu pendant ces dernières années, cette reconnaissance de la recherche, qu'elle soit recherche de connaissances, recherche fondamentale ou recherche appliquée, est un événement important et qui nous laisse préjuger très favorablement de l'avenir.
Vous avez occupé une fonction de conseiller scientifique auprès de Laurent Fabius en 85-86. Et donc, je voudrais vous poser, Pierre Joliot, deux questions à propos de cette expérience. Une question un peu technique sur le pouvoir réel des conseillers. Peut-on réellement conseiller, agir et accompagner le changement quand on est conseiller ou d'un Premier ministre ou d'un président ?
Le rôle des conseillers me paraît toujours un petit peu ambigu, car ce sont un peu des hommes de l'ombre et qui ne sont pas des élus. Ils sont à la fois en retrait par rapport au public. Et ils ont des possibilités d'action importantes. Malheureusement, compte tenu des contraintes extraordinaires qui limitent les possibilités d'action des politiques, il est plus facile d'agir dans un sens négatif que positif. Donc la première mission d'un conseiller, c'est de ne pas être toxique, si je puis dire. Et ceci a l'air d'une plaisanterie, mais j'y attache beaucoup d'importance. D'abord, limiter son pouvoir de nuisance. En ce qui me concerne, j'ai été confronté à un des problèmes les plus graves qui a frappé la santé publique dans les années 80, qui était le problème du sida. Et là, effectivement, c'était typiquement un problème qui relevait du Premier ministre dans la mesure où il impliquait une coordination entre différents ministères. Et c'était un travail à la fois très éprouvant et très difficile. Je pense simplement que le pouvoir des conseillers doit être limité et qu'il faudrait qu'ils se contentent de conseiller et non pas de diriger. Ce n'est pas le métier des conseillers, c'est le métier des ministres et de leur administration de conduire la politique du pays.
Très bien. Alors ma deuxième question est moins technique et plus générale. Si aujourd'hui on vous demandait, Pierre Joliot, comment aider et comment favoriser la recherche, quelles seraient, selon vous, les difficultés et les points que vous voudriez mettre en avant ? Donc ici, pas nécessairement comme conseiller de la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Geneviève Fioraso, mais comme conscience engagée, militant de Sauvons la Recherche, par exemple, ou comme citoyen éclairé.
Je pense qu'il faudrait totalement réexaminer et redéployer la politique qui a été pratiquée au cours de ces dernières années. La politique qui a été conduite par le précédent gouvernement s'est traduit par une perte d'influence et une perte de moyens considérables des grands organismes de recherche et tout particulièrement du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, qui a toujours été, on peut dire, l'âme de la recherche en France. Et je pense que le précédent gouvernement n'a pas bien compris que la manière de conduire et de soutenir la recherche fondamentale et la recherche appliquée ne peut pas être pratiquée dans un sens équivalent. La recherche appliquée se prête particulièrement bien à une programmation. Il est tout à fait logique qu'on crée des programmes très ciblés sur des sujets qui intéressent la nation dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la santé, de l'industrie et dans tous les domaines possibles. En ce qui concerne la recherche fondamentale, la notion de programme, la notion de recherche sur contrat est à mon avis extrêmement dangereuse, car dans la recherche de connaissances, le chercheur ne sait pas ce qu'il va trouver. La découverte est toujours une surprise, elle est donc par essence improgrammable, et c'est ce qu'on a voulu nous imposer ces dernières années. Et ceci s'est traduit donc par un basculement des moyens depuis des organismes, encore une fois, comme le CNRS ou de l'université, vers des organismes comme l'ANR, qui distribuaient de l'argent sur contrat. Et à mon avis, il faut rééquilibrer, même à budget constant, à mon avis, on peut faire beaucoup mieux que ce qui a été fait dans ces dernières années. Il y a eu pas mal de programmes de recherche. Finalement, le financement de la recherche au cours de ces dernières années n'a pas été tellement catastrophique, mais la manière dont ce financement a été distribué me paraît extrêmement critiquable. Et au centre des problèmes qui se posent, et qui est un véritable problème pour tous les pays du monde, se pose le problème de l'évaluation de la recherche fondamentale est quelque chose d'extrêmement difficile. La recherche fondamentale est un métier de créateur, c'est en quelque sorte un métier d'artiste. Il est extraordinairement difficile d'évaluer ce qui est nouveau. Donc, il faut réfléchir vraiment très profondément à ce problème d'évaluation et surtout éviter ce qui se développe actuellement d'une manière absolument scandaleuse de mon point de vue. C'est ce qu'on appelle l'évaluation quantitative, qui consiste à juger les chercheurs, non pas sur la qualité et l'originalité de leur recherche, mais de la juger sur la quantité de leurs recherches, et parfois d'une manière particulièrement absurde, même pas sur la qualité de leurs recherches, mais sur la qualité, ou soi-disant de qualité, des journaux dans lesquels ils publient. Et je pense que ce problème d'évaluation est d'un des grands chantiers qui doit être pris en compte par le nouveau gouvernement, car les dérives dans ce domaine sont absolument dramatiques.
Vous citiez tout à l'heure l'exemple de la revue Nature. Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs ce que vous...
Les journaux sont classés sur des critères qui me paraissent totalement contestables par leur indice d'impact. Et une publication, par exemple, dans un journal comme Nature, a une valeur quasiment indépendante de la qualité de la publication. L'important est de publier dans Nature. J'ai vu dans Nature d'excellents articles et j'ai vu dans mon domaine également des erreurs monumentales. Mais publier un article dans Nature représente pratiquement le Graal pour franchir aussi bien l'entrée dans la recherche que les promotions. Et ce type d'évaluation est particulièrement dramatique parce qu'il favorise les sciences à la mode. Or, pour moi, les sciences qu'il faut promouvoir, ce sont justement les sciences en développement. Quand on sait qu'une science est importante, c'est déjà trop tard. Il y a toujours un décalage entre le moment où on reconnaît l'importance d'un domaine et le moment où ce domaine apparaît. Donc, il faut avoir un mode de financement de la recherche qui permet de d'écarter les chercheurs, d'éviter que les chercheurs se concentrent tous sur un nombre très limité de sujets, ce qui est finalement une manière de perdre l'argent de l'État. À mon avis, contrairement à ce que croient beaucoup, même de certains de mes collègues, c'est une des meilleures manières de perdre en quelque sorte l'argent qui soutient la recherche. Oui. Donc l'évaluation doit tenir compte que nous sommes en quelque sorte un métier d'artiste et que les artistes sont difficiles à évaluer et qu'il faut accepter obligatoirement un certain nombre d'erreurs d'évaluation. Si on ne veut pas faire d'erreurs d'évaluation, on éliminera ce qui est le plus mauvais, mais également ce qui est le plus nouveau et le plus original.
Ce qui serait dramatique. Vendredi 1er juin 2012 va se tenir au Collège de France le colloque de l'Union rationaliste auquel je convie donc les auditeurs de la région Île-de-France qui peuvent se rendre à ce colloque car il est ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Donc il se tiendra donc le 1er juin de 9h15 à 17h30 au Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot, à Paris, dans le 5e arrondissement. Et cette année, le colloque de l'Union rationaliste porte sur le principe de précaution. Je sais que ce thème vous paraît important, Pierre Joliot, car nous l'avions évoqué lors d'une précédente émission à cette même antenne en avril 2009. Quelles sont pour vous, Pierre Joliot, les difficultés et les dilemmes les plus importants auxquels les chercheurs sont confrontés concernant ce principe de précaution ?
Le problème est finalement assez simple. Le principe de précaution apparaît au premier abord comme totalement acceptable et même nécessaire. Et d'autre part, le danger du principe de précaution est de bloquer l'innovation et le progrès. Donc l'équilibre entre l'application du principe de précaution et la prise de risques indispensable, qui est indissociable de tout progrès, c'est vrai pour le chercheur, mais c'est vrai pour les sociétés. Je pense qu'une société qui ne prend plus de risques est une société qui meurt, qui ne peut plus innover. Donc, il s'agit d'un équilibre extraordinairement difficile à manier. Et je constate qu'actuellement, beaucoup de groupes de pression qui défendent, au demeurant, des positions tout à fait honorables, focalisent leur action sur des dangers supposés, des dangers potentiels, alors que nous sommes exposés à un très grand nombre de dangers parfaitement avérés. Donc il faut apprendre à pondérer lorsqu'il y a développement de nouvelles technologies, de ne pas, et bien sûr, faire n'importe quoi, mais de ne pas se focaliser sur des dangers supposés et non prouvés et s'occuper également des dangers qui menacent nos sociétés et qui sont bien caractérisés. Donc c'est un équilibre extraordinairement difficile à maintenir et je crois qu'actuellement il y a un excès et un danger dans l'application du principe de précaution et j'aurais tendance à résumer les choses en disant que le pire risque que peut prendre une société ou d'ailleurs un individu, c'est de ne pas prendre de risque. C'est-à-dire il faut que les citoyens aient conscience que de ne pas prendre de risque face aux dangers qui menacent la planète, le réchauffement climatique, la faim dans le monde, ne pas prendre de risque, c'est se condamner. Donc, encore une fois, le principe de précaution, il n'est pas question de le rejeter. Il est éminemment nécessaire, mais il faut qu'il soit équilibré par cette notion absolument indispensable que nous avons besoin de technologies nouvelles pour faire face aux problèmes qui menacent la planète et que toutes les fois qu'on développe des technologies nouvelles, il y a obligatoirement une prise de risque. Et je crois que c'est vrai pour la planète, comme c'est vrai pour chaque individu, comme c'est vrai pour un chercheur. Un chercheur qui ne prend pas de risque est un chercheur qui ne trouvera jamais rien.
C'est sur ces derniers mots, Pierre Joliot, que nous allons clore cette émission. Je vous remercie. Je rappelle donc que le colloque de l'Union rationaliste se tiendra le vendredi 1er juin au Collège de France, que vous pouvez retrouver sur le site de l'Union rationaliste, sur notre site web, à la fois le programme de ce colloque et les diverses publications, raisons présentes et les cahiers rationalistes de l'Union rationaliste. Je remercie Stéphane Touvenin et Brigitte Mazir qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.